Vous écoutez
RMC.
RMC.
On s'est bien fait entuber par un arbitrage maison.
Un arbitre de touche, il décide de l'issue d'une rencontre comme ça. Et lui, je sais pas ce qu'il avait, mais il voulait pas qu'on gagne.
Et on a marre de cet arbitrage français. Et on nous explique que l'arbitrage français est le meilleur de France.
Quand ils vont siffler un pénalty à Lyon, bah, ils le sifflent plus. Il faut vraiment qu'il soit flagrant. Hein.
C'est jamais là, c'est qu'on roule. C'est jamais là, c'est qu'on roule.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h01 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, l'after foot avec Kevin Diaz, avec Fabrice Hawkins, avec Maxime Chano. Vous le savez, RMC est déjà à l'heure de la Coupe du Monde et nous vous offrons des albums Panini Coupe du Monde absolument magnifiques avec 350 stickers. Toutes les 30 minutes, il y a un gagnant qui est tiré au sort. Pour gagner, il suffit d'envoyer dès maintenant Panini au 732-16, Panini au 732-16 et être évidemment tiré au sort. Bonne chance à tous. Vous le savez, RMC Radio officielle du Mondial. Ça se passe du 11 juin au 19 juillet. Et on va évidemment se tourner vers les nations qualifiées. La première Coupe du Monde à 48. Camille Borin, le Maroc est opposé à la Norvège et ça vient de se terminer, c'est ça ?
Oui, ça vient de se terminer sur un match nul, Karine. Un partout entre le Maroc et la Norvège. Je rappelle que ce match, il nous intéressait parce que la Norvège est dans le groupe de la France, dans le groupe I. Ils affronteront en premier l'Irak le 16 juin, le Sénégal le 22 juin et donc les Bleus le 26 juin à Boston. Et puis côté marocain, ils vont commencer leur Coupe du Monde en affrontant le Brésil le 13 juin, puis l'Écosse le 19 juin et Haïti le 24 juin. Mais pour ce dernier match de préparation, il y a un partout entre le Maroc et la Norvège et c'est terminé.
Merci beaucoup. On rappelle donc Diaz qui a marqué le premier but et c'est Odegaard qui a égalisé pour la Norvège. On accueille tout de suite Saïd Hamda qu'on connaît bien parce qu'il a notamment vécu la CAN avec nous en direct du Maroc cet hiver. Bonsoir Saïd, merci beaucoup d'être
Saïd.
Avec nous.
Salut Saïd.
Salut à tous, bonsoir.
Salut Saïd.
Saïd, journaliste Squad, on va parler avec toi du Maroc. Alors forcément, le Maroc est ambitieux, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Je sais plus quoi dire pour la dernière CAN, on dit quoi, vainqueur au final? En tout cas, bon, finaliste, ça c'est sûr.
Bah, personne ne sait.
Jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est vainqueur. Le TAS décidera si on maintient ou pas. Mais dans les statuts, pour l'instant, Maroc vainqueur.
Écoute, très bien. En tout cas, le Maroc était arrivé jusqu'en finale de sa CAN. Et il y a un flou derrière.
N'ont pas la même lecture.
Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, la coupe, elle est au Sénégal.
Voilà.
Jusqu'à preuve du contraire.
C'est toujours une petite difficulté, mais en tout cas, bon, le Maroc était au rendez-vous de sa compétition. On le rappelle, où il y avait énormément de pression. Alors depuis, il y a eu effectivement un changement de sélectionneur. On le rappelle, Regragui n'est pas resté. Aujourd'hui, c'est Mohamed Wahbi, le sélectionneur. Est-ce que le Maroc peut faire mieux ou aussi bien qu'en 2022? Quels sont les sons de cloche côté marocain, Saïd?
Oui, le Maroc peut faire aussi bien qu'en 2022. D'ailleurs, c'est l'objectif. Les Marocains aujourd'hui, grâce à cette performance en 2022, ont rehaussé le niveau des ambitions et ont envie justement d'atteindre ce dernier carré de la Coupe du Monde. L'idée, ce serait au minimum de faire quart de finale, puisque sur cette édition, à 48 équipes, il y a un tour de plus, donc ça reviendrait un peu être l'équivalent. Mais forcément, le Maroc ne vient pas du tout faire de la figuration. Il y a une grosse pression populaire, une grosse pression aussi de la fédération qui a investi beaucoup d'argent, qui a investi aussi dans le centre d'entraînement, qui a investi aussi sur les binationaux avec Ayoub Bouadi qui rejoint du coup le Maroc pour cette Coupe du Monde. Donc évidemment les ambitions sont très très élevées et le Maroc y va pour essayer de faire aussi bien qu'en 2022 puisque ce dernier carré en 2022 a apporté un tel rayonnement à l'international que pour le Maroc il va falloir confirmer. Tout le monde dans le monde entier pense que le Maroc est une équipe vraiment très intéressante. Maintenant, il va falloir confirmer et pas montrer que 2022 était simplement une parenthèse.
Tu viens d'en parler, hein, Bouadi qui était notamment titulaire ce soir. Il y avait évidemment Hakimi, le capitaine, il y avait Diaz, il y avait Unai. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Marocains face à la Norvège? On rappelle, les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et du côté de la Norvège, ça nous intéresse aussi, nous, parce que les Norvégiens sont dans le groupe des Français.
Honnêtement, prestation plutôt solide de la part du Maroc. Le Maroc a quand même plutôt maîtrisé notamment la première période avec beaucoup d'occasions. C'est vrai que le match se termine à un partout, mais en termes d'occasions purement franches, le Maroc en a eu quand même pas mal. On pourrait peut-être s'inquiéter du nombre de ratés du Maroc parce qu'effectivement, Brahim Diaz a réussi à marquer son but, mais le Maroc aurait pu s'en sortir avec deux, voire trois buts. Les Norvégiens n'ont pas été dangereux, notamment en première mi-temps, peu plus
deuxième mi-temps,
en seconde.
C'était différent, hein, ça s'est rééquilibré quand même.
Absolument, un peu plus en seconde puisque le Maroc a effectué des changements. D'ailleurs, tous les joueurs marocains Marocains sont sortis au fur et à mesure du match, et notamment à l'heure de jeu où une grosse salve des changements ont été faites. Et donc le rapport de force est équilibré forcément, et d'ailleurs c'est à ce moment-là aussi où la Norvège égalise par l'intermédiaire de Martin Ødegaard. Donc ça a été plutôt un match intéressant côté marocain. Faut rester quand même concentré sur la finition, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de ratés, et en Coupe du Monde, le Maroc ne va peut-être pas pouvoir se permettre de rater autant d'occasions. Et sinon, sur l'assise défensive, le Maroc s'en est quand même globalement bien sorti. Il faut savoir que c'est le secteur de jeu où il y a le plus de questions, puisque Naïef Aguerd n'était même pas sur la feuille de match, encore un petit peu en blessure. Après, il récupère encore un petit peu.
Son opération quand il était à Marseille, effectivement.
On a des nouvelles de Zouli, d'ailleurs, de Abdelzouli qui est sorti sur blessure.
Alors il y a deux joueurs qui sont sortis plus ou moins pour des gènes. Donc effectivement Abdel Zalzouli, à l'instant T là, comme le match vient à peine de se terminer, je n'ai pas spécialement d'informations sur la nature de sa blessure.
Ça a l'air inquiétant ou
Oui et non, parce que quand il prend le coup, il reste quand même quelques minutes après sur la pelouse, et c'est ensuite qu'il se couche au sol. Donc c'est toute une question d'interprétation. On peut se dire qu'il a quand même continué après avoir pris le coup, mais il a été quand même contraint de sortir. Je pense que le sélectionneur Mohamed Wahbi n'a pas voulu prendre de risque avec Abdel Zalzouli, qui sera un titulaire en puissance.
C'est pour ça que je te pose la question. Il faut espérer que ce soit pas trop grave, quoi.
Voilà, faut espérer que ça soit pas trop grave, parce que le Maroc va beaucoup beaucoup compter sur ce joueur, et c'est un petit peu un cas similaire avec Nusayr Mazraoui aussi, qui est sorti assez tôt dans la partie par précaution. Le Maroc va essayer de ne perdre aucun joueur, surtout sur ce dernier match de préparation. On en saura un peu plus dans les prochains jours, les prochaines heures. Mais moi, si on me demande simplement mon avis aujourd'hui, je suis pas spécialement inquiet au vu de la nature des blessures.
Oui, après attention, parce que moi j'ai pas vu tout le match. On a regardé d'un œil notamment la fin de match, et là je regarde les occasions, il y a quand même beaucoup d'occasions pour la Norvège.
Hein. Oui, en deuxième mi-temps, je pense que
bien sûr.
Le rapport de force.
Là, je viens de voir un but invalidé pour Sorloth, là, quand il met un coup d'épaule, il n'y a jamais faute. Hein.
Non, deuxième mi-temps, je pense qu'il n'y a presque pas photo. Alors, est-ce que aussi, parce que les Marocains, il y avait beaucoup de changements, tu l'as très justement dit, mais c'est vrai que le rapport de force, autant qu'en première mi-temps, les Marocains ont dominé, deuxième mi-temps, il n'y avait presque qu'une équipe, il n'y avait pas photo. Alors, moi, pour revenir par rapport à la dynamique de cette équipe nationale, mais je pense qu'il y a des certitudes, et tu l'as très justement dit, mais aussi des questionnements, et notamment l'arrivée du nouvel entraîneur Mohamed Wahbi. C'est vrai que la fédération marocaine a dû faire un peu un travail d'urgence, parce qu'on rappelle, Regragui a décidé de s'en aller, il me semble, en mars, donc ça laissait seulement 2 ou 3 mois pour pouvoir retrouver quelqu'un. Wahbi, c'est un coach qui a eu quand même de la réussite, notamment. Alors je suis pas sûr, tu vas me confirmer ça, mais je pense que c'est lui l'entraîneur qui a gagné le mondial U20, c'est possible?
Absolument, oui, absolument.
Donc c'est vrai qu'il est plus considéré quand même comme un formateur que comme un entraîneur du très haut niveau, du top niveau. Après, quand tu regardes aussi, c'est intéressant, mais cette sélection, elle fonctionne bien, elle marche bien, elle a très très bien évolué. Donc il y a évidemment cette Coupe du Monde 2022 avec ce super parcours. Derrière, t'as cette équipe U20 là qui gagne le championnat du monde U20, et puis surtout t'as cette CAN, où est-ce que, même si bon, il y a les polémiques, on va revenir dessus, on en reviendra plus dessus parce qu'on en a assez parlé, je veux dire, mais en tout cas c'est quand même une sélection qui fonctionne bien. Tu l'as aussi très justement dit, c'est vrai que ça va être différent, parce que dans la mesure où il y a plus d'équipes qualifiées, et là il y a un tour de plus en 16e de finale, donc ça voudrait dire que pour atteindre les demi-finales et de refaire au moins aussi bien qu'en 2022, il faudrait gagner un match supplémentaire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'individualités qui fonctionnent bien. Moi, je suis très heureux de voir le petit Boadi rejoindre les Lions de l'Atlas. Je pense que c'est vraiment un super message pour les binationaux. Et puis, derrière, vous avez des certitudes. Bounou au but, moi, je trouve très, très bon, qui a fait une grande CAN. Et puis, évidemment, Saïbari, qui est un peu le leader d'attaque avec un Brahim Diaz. Je pense que le Maroc a des qualités. Après, on va voir comment les joueurs vont réagir, évidemment, à leur premier match. Mais c'est vrai que quand tu regardes la Norvège, pour terminer sur mon analyse, c'est vrai que la deuxième mi-temps, c'était quand même assez poussif. Hein.
Bah, il y a des vrais bons joueurs, surtout. Il y a des vrais bons joueurs, tu l'as dit, Max, sur toutes les lignes maintenant, avec le renfort des binationaux qu'il y a eu, Diop en défense, évidemment, Boadi. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a des bons joueurs qui viennent s'ajouter. Déjà, une équipe qui fonctionnait plutôt bien. Et ce qui me fait dire que, et on l'a vu contre la Norvège notamment, il n'y a aucune équipe qui va prendre cette sélection à la légère. Et je pense que ça va être un nouveau défi pour eux, parce qu'ils vont jouer contre des équipes, exactement, qui vont les attendre, et qui vont les attendre de pied ferme. Et c'est de voir justement comment ils vont réagir, parce que, on l'a pas dit, mais il y a pas mal de jeunes joueurs aussi, hein. Il y a beaucoup de talent, mais il y a pas mal de jeunes joueurs. Donc comment est-ce qu'ils vont réagir avec ce niveau de compétitivité, cette adversité-là aussi? Ça va être tout l'enjeu aussi du Maroc, de savoir s'ils peuvent, se mettre au niveau.
Saïd Hamda, journaliste et notre invité sur RMC. Saïd, je voudrais savoir quelles sont les différences depuis que Mohamed Wahbi a pris la tête des Lions d'Atlas et le fait que vous commenciez par l'adversaire le plus fort. Qu'est-ce que ça amène dans la préparation que le Maroc est en train de faire en vue du 14 juin? Donc on le rappelle, c'est Brésil-Maroc et après c'est d'un autre niveau, Écosse et Haïti.
Bien sûr, je suis d'accord avec l'ensemble des choses qui se sont dites sur le plateau. Le Maroc est une équipe très jeune, 25 ans et quelques de moyenne d'âge. Donc ça va être plus dur pour le Maroc en 2022, puisqu'en 2022, personne n'attendait le Maroc à cette Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, le Maroc a un statut. Donc forcément, il y a beaucoup il y a beaucoup moins de surprises. Maintenant, Mohamed Wahbi travaille de manière assez différente par rapport à Walid Regragui, pour répondre à la question. C'est que Mohamed Wahbi a eu tellement peu de temps qu'il a décidé de convoquer, bon, sur le rassemblement de mars, une première salve de joueurs un peu dans la précipitation. Mais là, lors du mois de juin, il a convoqué un groupe élargi. Donc, en fonction du vivier marocain, il a fait un stage pré-sélection, on va dire ça, avec beaucoup de joueurs qui sont potentiellement sélectionnables. Et en fonction de ça, il a analysé pas mal de joueurs, avec certains qu'il a gardés. Et il y a aujourd'hui aussi trois réservistes côté marocain, d'ailleurs, qui sont toujours dans le groupe et qui quitteront le groupe au début du mondial. Donc il y a une façon de voir le football beaucoup plus large, où Mohamed Wahbi ne cesse de répéter qu'il veut promouvoir la méritocratie, qu'il a envie que chacun ait sa chance. Et d'ailleurs, dans la liste, il y a un joueur comme Ayoub Amaimouni, qui est la surprise de cette liste. Personne ne s'attendait à le voir, et finalement, il va disputer sa première Coupe du Monde. Donc effectivement, le Maroc a un groupe très jeune, va affronter dès le départ le Brésil. Selon moi, c'est une bonne chose, parce que tout de suite, ça vous fait rentrer dans la compétition. Et comme en 2022, le Maroc a commencé avec un gros poisson, puisque le premier match en 2022, c'était Maroc-Croatie. Et Croatie était le dernier finaliste de la précédente Coupe du Monde, donc à savoir celle de 2018. Et forcément, c'est un match que tout le monde attend. Et ça va permettre aussi au Maroc de pouvoir jauger le reste de sa compétition. Si le Maroc perd déjà contre le plus gros adversaire, à savoir le Brésil, forcément, ils savent que face à l'Écosse et face à Haïti, ils sont un petit peu au pied du mur. Ils vont devoir y aller à 200%. Et si le Maroc bat le Brésil, voilà, ils savent qu'ils ont de la marge. Aujourd'hui, avec 3 points, on est sûr quasiment de se qualifier à 75%, ce qui est assez confortable. Donc, il faudra peut-être éventuellement qu'un nul face à l'Écosse ou face à Haïti pour passer. Et donc, ça va permettre peut-être aussi de faire tourner l'effectif, de permettre à d'autres joueurs de jouer ou de tenter des choses tactiques, parce que Mohamed Wahbi a envie de tenter pas mal de choses tactiquement. Il a encore fait des...
Il vaut mieux pas le tenter pendant la compétition.
Il ne faudra pas le tenter pendant la compétition, mais si tu assures déjà ta qualification assez rapidement, ça te donne quand même encore un peu de marge. Il faut savoir que Mohamed Wahbi a eu tellement peu de temps que s'il peut se permettre ce luxe-là, je ne pense qu'il ne va pas s'en priver. Ouais. Et comme tout à l'heure on le disait, même si la première mi-temps du Maroc, et c'est pour ça que j'avais divisé mon analyse par deux, c'est que la première mi-temps du Maroc, où il y avait entre guillemets cette équipe type, c'était plutôt satisfaisant, et la deuxième mi-temps où le Maroc a beaucoup plus souffert. Donc moi, j'étais plutôt content de voir que cette première mi-temps a été globalement maîtrisée, mais il y a des interrogations. Il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est réellement. La défense centrale, c'est une interrogation. Là aujourd'hui, on avait Issa Diop et Shadi Riyad, mais on n'est pas à l'abri qu'un Shadi Riyad se blesse. Ça a été son très très gros problème pendant longtemps. Donc comment on va gérer cette assise défensive-là? Et offensivement, on joue avec un faux neuf, avec Saïbari, qui n'est pas spécialement très à l'aise à ce poste-là, mais c'est l'idée de Wahbi de le laisser un peu graviter devant, alors qu'il y a des attaquants de métier comme Rahimi, comme El Kaabi. Ça aussi, il va falloir voir, est-ce que Saïbari devant, c'est assez solide pour peser, ou est-ce que c'est suffisamment bon pour permettre à l'animation offensive de fonctionner? Donc il y a toutes ces questions-là qu'il va falloir élucider à terme.
Et la non-sélection de Sofiane Boufal, est-ce que ça a fait parler au Maroc? Lui qui est quand même bien revenu sur les 6 derniers mois avec le Hub, là en Ligue 1, d'ailleurs on le sait, hein, il a décidé de rentrer en Ligue 1 justement pour être prêt pour cette Coupe du Monde, en tout cas pour être visible, lui qui jouait quand même très peu en Belgique, du côté de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, comment ça a réagi au pays?
Non, bah en fait, Sofiane Boufal est un joueur qui est très apprécié par rapport au Mondial 2022, mais c'était déjà inespéré un petit peu qu'il soit au niveau sur cette Coupe du Monde-là. Donc effectivement, il a eu sa chance, il est arrivé au stage où il a pu montrer ce qu'il allait faire. Donc ça n'a pas choqué plus le peuple que ça que Sofiane Boufal n'ait pas fait cette Coupe du Monde, quand bien même il aurait mérité. Hein. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de le voir. Je pense que sur 20 minutes, c'est un joueur qui peut créer cette magie, mais ça n'a pas été un scandale d'État, si c'est ça la question, de voir son absence à cette Coupe du Monde.
Tu parlais des objectifs tout à l'heure, Saïd, avec ce quart de final peut-être, hein, qui peut être un objectif pour cette sélection. Est-ce qu'il y a la même forme de pression pression qu'il y avait sur la tête de Walid Regragui lors de la CAN. On savait que c'était quasiment ou la victoire ou la porte. Est-ce qu'il y a une grosse pression aussi sur le sélectionneur, ou si jamais ça sort en 16e de finale ou en 8e de finale, j'ai pas envie de dire que ce sera pas très grave, mais on lui en tiendra par ailleurs.
Tout dépend de l'adversaire et de la manière. Tout simplement, si tu sors en 16e de finale contre un très gros pays et que tu perds que par exemple 1-0, évidemment ça sera pas un drame national. Le Maroc sait aussi où il se positionne à l'échelle internationale. Maintenant, si on perd contre un pays qui est moins bien classé au classement FIFA et qu'on prend 2-0 ou 3-0, effectivement, ça va être une pilule assez difficile à avaler. Il y a une très grosse pression sur Mohamed Ouabi parce que depuis cette fameuse Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale, au Maroc, et je pense que beaucoup de Marocains le diront, le statut de la Coupe du Monde est tellement au-dessus par rapport à la CAN. Donc c'est un peu notre vitrine à nous où on a besoin de performer, de prouver qu'on n'était pas qu'un incident de parcours, qu'on n'était pas juste une petite surprise, mais qu'on a envie de s'installer dans le temps, dans les équipes qui peuvent être dangereuses à la Coupe du Monde. Donc effectivement, sortir en 16e de finale ou en 8e de finale, ça va être un peu un caillou dans la chaussure. Après, tout dépend du scénario du match, mais très très clairement, l'objectif minimal va être donc d'être en quart de finale au vu aussi des joueurs qui sont dans cette sélection-là où il y a beaucoup beaucoup de qualité. Donc on en attend évidemment beaucoup.
Il y a beaucoup de pression. 14 juin, Brésil-Maroc. Kevin, aujourd'hui, est-ce que le Maroc a plus de certitude que le Brésil? Est-ce que pour toi, le Maroc devrait sortir premier de son groupe?
Non, pour moi.
Le Brésil, c'est devant.
Ouais, pour moi, le Maroc peut sortir un premier du groupe. Tout peut arriver dans ce sport. Il y a beaucoup d'incertitudes. Par contre, pour moi, le Maroc est derrière le Brésil. Moi, j'ai dit il y a quelques jours dans l'after que pour moi, le Brésil pouvait être une surprise, entre guillemets, bien sûr, puisque le Brésil n'est jamais une surprise. Mais
Là, ça le devient, parce qu'ils n'ont plus gagné depuis 2002, donc ça serait une surprise.
On est d'accord. On est d'accord que déjà, s'ils font ne serait-ce qu'un très gros parcours en faisant une belle demi ou même en se qualifiant pour une finale, ce serait une surprise. Donc ça, c'est une surprise pour le foot que le Brésil devienne outsider. Par contre, je les vois quand même bien au-dessus du Maroc. Une équipe du Maroc qui...
Bien au-dessus, carrément.
Ah, moi, je vois le Brésil bien au-dessus du Maroc. Après, bien au-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils vont leur mettre 3-0. Pour moi, si tu me demandes qui est favori, je dirais toujours le Brésil. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que peut-être que jusqu'à preuve du contraire, le Maroc a gagné la CAN. Mais moi, je pense que ça a quand même secoué cette sélection. Ça a secoué la sélection dans le sens où, voilà, on a un Brahim Diaz qui sera sûrement revanchard. Mais s'il y a un pénalty à tirer à la 89e, j'aimerais bien savoir qui va le tirer, comment il va le tirer.
Hakimi.
Donc,
ça sera pas Brahim, je peux te spoiler dès le départ.
Voilà.
Non, mais ce sera pas Brahim.
Tu vois ce que je veux dire. Après, ça reste une sélection où il y a énormément de talent et où ils peuvent faire un très très beau parcours, mais ça reste des outsiders pour moi.
Merci beaucoup. Après, oui, Saïd, le mot de la fin.
Juste pour la précision, sur la dernière confrontation entre le Brésil et le Maroc, c'était en 2023, juste après la Coupe du Monde, et le Maroc avait gagné 2-1. Voilà, je vous donne cette petite chips-là.
Merci beaucoup Saïd Hamda d'avoir été avec nous, journaliste spécialiste du Maroc, et tu officies à Squad. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va continuer de parler des équipes présentes lors du Mondial et on va aller en Allemagne, parce que ça aussi, l'Allemagne, vous le savez, ça a été deux couacs terribles en 2018 et 2022 avec deux éliminations dès la phase de groupe. Est-ce que la Mannschaft est armée pour aller loin? Paulo Breitner va répondre à cette question. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Karine Galli.
23h20 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, l'after foot, avec Maxime Chano, avec Fabrice Hawkins, avec Kevin Diaz. Vous le savez, on est tourné vers la Coupe du Monde qui débutera ce jeudi 11 juin. RMC, radio officielle du Mondial. Il y avait des matchs amicaux ce soir, il y a eu notamment un but partout entre le Maroc et la Norvège, deux nations qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde. Et on va s'intéresser maintenant à la Mannschaft, l'Allemagne. Et nous sommes avec Paulo Breitner. Salut Paulo.
Salut, bonsoir Paulo. Karine, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Bon Paulo, l'Allemagne a battu les USA, le match a eu lieu à Chicago, c'était hier, mais on rappelle évidemment, je suis désolé, que l'Allemagne a complètement raté ses deux dernières Coupes du Monde. Ça avait été défaite dès la phase de groupe en 2018 alors qu'ils étaient tenants du titre en 2014, et à nouveau rebelote 2022, ils ne sont pas sortis de la phase de groupe. Bon, ils ne peuvent pas faire pire cette fois-ci.
Bah non, puis vu que
tout le monde est qualifié maintenant.
Tout le monde est qualifié maintenant, mais ça fait plaisir aux enfants de 10 ans. Donc tout ça, si la nationale Mannschaft ne passe pas ce groupe-là, ça risque d'être, je sais plus, qu'ils arrêtent le football, les Allemands, quoi. Mais moi, j'en reviens toujours à 2018, parce qu'autant 2022 peut être explicable, 2018, ce qui s'est passé est complètement fou, parce que
défaite face au Mexique et la Corée du Sud.
Ouais, mais surtout, je rappelle que moi, je recevais des coups de fil de journalistes français qui étaient persuadés que l'Allemagne allait être championne du monde en 2018. L'Europe Espoir avait été remporté par une équipe à prime par les Allemands. La dernière Coupe des Confédérations avait été remportée par une équipe à prime par les Allemands. Et on avait un effectif pléthorique pour la Coupe du Monde et on a vu ce qui s'est passé. Donc tout ça un peu est toujours un peu traumatisant pour les Allemands. Ils ont du mal à en parler d'ailleurs. Donc ils font des documentaires non pas sur cette période-là, mais plutôt sur des périodes où ils l'ont emporté précédemment. Je pense à 90. Il y a aussi le traumatisme de 94. Ils comprennent toujours pas comment ils ont pu perdre face à la Bulgarie, etc. Donc on est dans une période un petit peu spéciale, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément... Alors c'est un peu un tableau en clair-obscur hein, ce qui se passe en ce moment, puisqu'on est en tout et pour tout sur 9 victoires à la suite, donc l'Allemagne est quasiment invaincue depuis un an maintenant. Et par contre, il y a des mauvaises nouvelles, puisque Gnabry, on le sait, n'est pas à la Coupe du Monde, qui est blessé. Et celui qui était un petit peu la surprise de Nagelsmann,
le jeune Bayern,
est aussi blessé. Donc en fait, on a tout le côté droit qui est absent, et finalement, c'est Leroy Sané qu'on ressort du chapeau et qu'on met sur le côté droit. On connaît très bien la carrière du joueur qui évolue en Turquie en ce moment. Il peut te faire des matchs extraordinaires comme il peut se planter lamentablement. Et le match, en fait, contre les États-Unis, qui était très intéressant parce que c'est un pays organisateur, qui a une très très belle composition, au moins au milieu de terrain et devant, beaucoup moins derrière, hein, je parle des États-Unis là, quand les Allemands jouent, tu vois qu'ils sont largement supérieurs aux Américains, et lorsqu'ils commencent à baisser de pied à l'heure de jeu et qu'on commence à faire le turnover, tu sens que c'est un peu plus compliqué pour la Nationalmannschaft. Donc la victoire était, paradoxalement, elle est importante parce que c'est ce genre de match préparatoire où tout le monde dit mais c'est pas grave, c'est des matchs préparatoires, mais l'emporter contre un pays organisateur qui va vouloir je pense réussir une bonne compétition. Enfin, devant il y avait Dest, enfin quand je dis devant c'est les 7 hein, parce que c'était d'ailleurs Pochettino joue maintenant dans une défense à 3 aux États-Unis, c'est intéressant. Alors que les Allemands, maintenant, c'est fixé, ce sera une défense à 4 sous Nagelsmann. T'avais Dest, McKenny, Adams, Robinson, Pulisic, Tillman et Balogun. On les connaît tous, ces joueurs-là. Oui. Donc, c'est vraiment une belle équipe américaine. Je trouve, c'est que derrière, c'est un peu faible, faiblard. On va voir les gardiens. Mais je trouvais cette victoire sur la méthode et ce qu'ils ont réussi assez intéressante. Mais pas que non plus s'emballer comme a pu le faire Nagelsmann en pensant que Wirtz et Moussiala ont fait des belles performances. Il y en a un qui est pas à 100%. C'est évidemment le joueur du Bayern. Et Wirtz a été quasiment, je vais pas envie de dire le plus mauvais de la sélection allemande à Chicago, mais pas loin.
On rappelle, hein, le match a eu lieu hier. Les buteurs allemands, c'était Havertz et Sané. T'en as parlé, hein, de cette blessure triste, évidemment, pour le jeune du Bayern, Karl, qui est donc forfait. Il est touché à la cuisse gauche. Pas de Coupe du Monde pour lui. Il est remplacé par Ouedraogo.
Superbe joueur au passage en devenir. Superbe.
Quand on voit le groupe Curaçao, Côte d'Ivoire et Équateur, donc a priori c'est
l'Équateur.
L'Équateur qui est la nation la plus forte des trois, ou bon, en tout cas c'est Curaçao qui est la plus faible, ça on sera tous d'accord.
En fait, pour bien lancer la Coupe du Monde, évidemment personne ne doute que les Allemands vont l'emporter face à Curaçao. La question, ça va plus être la prestation des Allemands, c'est-à-dire qu'il va falloir lancer la Coupe du Monde, parce que dès le deuxième match ça va être contre les Ivoiriens, et évidemment c'est un gros outsider, donc il va falloir faire attention. Et puis bon, l'Équateur quand même, ça devrait être faisable pour la sélection allemande. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, si tu veux. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait personne y croit en Allemagne.
Je pense que c'est le meilleur indicateur, c'est aussi leur campagne de qualification. Alors ils sont tombés dans le groupe du Luxembourg, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir les regarder plusieurs fois. Dis-moi si je me trompe ou non, mais il me semble qu'ils perdent le premier match contre la Slovaquie de 0, ils éclatent 6-0. Il y avait une certaine revanche, mais je pense qu'ils finissent seulement avec 15 points, la Slovaquie avec 12 points. Donc moi je les ai pas trouvés très très impressionnants, et notamment sur les deux matchs contre le Luxembourg. Ce qui peut jouer en leur faveur sur cette Coupe du Monde, tu l'as dit, c'est leur groupe là.
Le groupe il est là. Le problème, c'est qu'il y a théoriquement, encore une fois, sur le papier, on verra ce qui va se passer, évidemment, la France qui se présente en huitième de finale, et personne ne voit les Allemands passer les Français. C'est pour ça que d'ailleurs que la polémique ou pseudo-polémique du retour de Manuel Neuer fait rigoler beaucoup de personnes, d'autant plus qu'il est toujours blessé, hein, il joue pas, hein, c'est Baumann qui d'ailleurs a fait des déclarations encore après la rencontre contre les États-Unis, comme quoi il avait vraiment pris un coup sur la tête quand on lui a annoncé que finalement c'était Manuel Neuer et qu'il revenait. Donc il y a ce système de dégradation de d'Oliver Baumann qui est difficilement compréhensible. Il y a beaucoup d'ailleurs d'anciens internationaux allemands et gardiens qui se sont exprimés en disant mais ça n'a aucune raison de faire revenir Manuel Neuer comme ça. Enfin bon.
Oui, mais Polo, avant que finalement Neuer revienne, alors qu'on croyait tous qu'il allait jamais sortir de sa retraite, beaucoup demandaient son retour. Donc c'est quand même un peu paradoxal.
Non mais on peut estimer, comme le fait Nagelsmann, que Manuel Neuer est l'icône du foot allemand à ce poste-là, à ce poste de gardien, et que à partir du moment comme Nagelsmann, il a raison de dire que Manuel Neuer est toujours l'un des trois meilleurs gardiens allemands. Donc il dit, je l'emmène avec moi à la Coupe du Monde. Le problème, c'est tout le tintamarre qu'il y a eu sur le fait que même Manuel Neuer dit qu'il veut pas revenir, qu'il est tout le temps blessé. D'ailleurs, encore une fois, il ne joue pas en ce moment parce qu'il est blessé. On a repoussé, ça le fait de le nommer dans le groupe pour la Coupe du Monde à cause de cette blessure. Nagelsmann ne savait pas quoi dire en conférence de presse, à tel point qu'on s'est posé la question qui le drivait au niveau de la communication pour la sélection allemande. Donc tout ça fait que c'est moyen. Maintenant, pour revenir sur la phase de groupe et de qualification, le problème, c'est que tu as vraiment une équipe d'Allemagne à deux visages. Il y en a une qui est capable de mettre 5-0 à tout le monde et il y en a une qui est capable de faire des matchs extrêmement médiocres. Et ça, c'est un petit peu le problème que je vois. Lundi dernier, dans les Drôles de Dames, on me posait la question qu'est-ce que je pensais de cette équipe. Moi, j'ai toujours l'impression de commencer depuis plusieurs années avec cette équipe d'Allemagne un championnat d'Europe, mais le championnat d'Europe espoir. Je ne sais pas ce que ça va donner, en fait. Jamais. Donc moi, je vais me laisser porter pendant cette Coupe du Monde parce qu'il y a du talent, il y a des choses que j'arrive pas bien à comprendre, évidemment. Là, on a vu que Nathanael Braun, au poste de latéral gauche, est passé devant Rome, ce qui est quand même assez assez impressionnant. On annonce Braun, d'ailleurs, au Bayern. Hein, c'est pas fait, mais on l'annonce au Bayern. On a toujours la question aujourd'hui du poste de sur le côté droit, évidemment. Moi, j'aimerais bien que ce soit Leveling. Là, Leroy Sané a pas été extraordinaire. Est-ce que Mecha, Pavlovic vont être au niveau. Kimmich, évidemment, au poste d'arrière droit, alors que, vu la saison qu'il a faite au milieu de terrain, ça pose peut-être des questions. Mais en tout cas, oui, Kai Havertz devant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de véritable numéro 9. Undav, c'est pareil, c'est plus un 9,5. Et puis surtout, moi, ça sera toujours la même question, c'est comment va fonctionner le duo Wirtz-Moussiala. Et Moussiala, encore une fois, va redevenir évidemment l'un des meilleurs joueurs du monde, mais en ce moment, c'est pas ça.
Et en termes de profondeur de banc, justement, je suis un peu inquiet quand je regarde cette sélection. Tu parlais de la possible confrontation entre l'équipe de France et la Nationalmannschaft en huitième de finale. On parle de richesse de l'équipe de France, notamment devant. Je vois pas la même chose évidemment en équipe d'Allemagne, mais de toute façon, il y a peu d'équivalents même au monde. Qu'est-ce que tu penses justement de ce banc de touche là derrière Wirtz? T'as commencé à donner des éléments de réponse avec la blessure notamment de Gnabry, mais est-ce que ça va pas leur faire défaut justement sur les très très gros matchs d'avoir des remplaçants?
La réflexion que je me faisais quand je vois la durée de la Coupe du Monde, c'est 8 matchs quand même. C'est-à-dire que t'as pas intérêt à te prendre des blessés ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas qu'Ouédraogo soit appelé au dernier moment par Nagelsmann. C'est qu'Ouédraogo, c'est pas un ailier. C'est un milieu défensif 6-8. C'est un récupérateur. Donc encore une fois, on a un milieu de terrain qui est très bon. On pourrait très bien avoir Stiller comme titulaire, etc. Mais un Pascal Gross n'a plus rien à faire là, même s'il a fait si très bon mois en première ligne. Mais le banc, en fait, pour moi, il y a des trous en fait dans cette équipe, qui est le problème de l'équipe de la sélection allemande depuis, on va dire, la fin de Klose et de Mario Gomez. Il y a plus de véritable grand numéro 9. Moi, au niveau des défenseurs centraux, je me pose pas trop de problèmes. Pavlovic, il y a quand même un bloc Bayern qui est là, donc c'est pas
heureusement d'ailleurs,
c'est pas mauvais non plus. Mais le problème, c'est vrai qu'il faudrait pas qu'il y ait 2-3 absents avec des cartons jaunes, cartons rouges, etc. Parce que ça me semble un petit peu léger à ce niveau-là. Donc voilà, moi je encore une fois, je vais me laisser porter. Je pense que l'Allemagne est un bel outsider. De là en faire un favori, c'est peut-être un peu trop. Mais ça. Ça fait longtemps en fait que l'Allemagne n'a pas vécu ce genre entre guillemets de déclassement. Mais c'est plus parce que moi je sais pas analyser l'équipe d'Allemagne en ce moment parce qu'elle est capable encore une fois de mettre des raclées à tout le monde et puis de rater complètement ses rencontres. Donc je sais pas ce que ça va donner.
Ce qui est quand même fou aujourd'hui, c'est en tout cas nous qui avons connu le football des années 90 et surtout des années 2000. Mais on vient de dire du Brésil, ah bah ils sont plus favoris. On vient de dire de l'Allemagne, ils sont outsiders. L'Italie, ils sont pas là. L'Angleterre, c'est éternel football. Is it coming home? Mais en fait, t'as quand même les grandes nations d'antan. Alors là, il y a l'Argentine qui revient un petit peu, mais même si Messi est sur la fin, mais la prochaine compétition sans Messi, pas sûr du tout qu'il fasse partie des favoris. Aujourd'hui, les Pays-Bas, qui étaient quand même toujours des équipes qu'on attendait, tu les vois même pas, tu sais même pas s'ils vont aller en quart de finale. Donc ça fait quand même beaucoup de grandes nations.
Mais il y a moins de talent.
Ou alors il y a moins de talent, ou alors le football se rééquilibre.
C'est ça. Moi,
c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les nations travaillent très bien. Ouais. Et donc, il y a de moins en moins de nivellement de valeur, je pense, même s'il y a encore.
Parce qu'on en revient toujours au même débat. Il y a 20 ans, vous prenez la liste des ballons d'or et vous prenez la liste des ballons d'or de cette saison. Combien dans les 10 premiers de cette saison, combien vont, simplement dans le classement des 30 meilleurs d'il y a 10 ans, 15 ans?
Non, mais c'est un éternel débat, ça. C'est compliqué de comparer les footballs actuels avec le...
Non, moi je parle juste de talent. Je dis pas qu'ils sont moins performants ceux de cette année.
C'est parce que le football c'est de plus en plus collectif et un peu moins individuel. Donc c'est vrai qu'on ressort un peu moins de talent individuel. Mais enfin,
c'est un peu ça. Ouais.
Moi je compte du monde sur ce qui nous fait rêver.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi. On en parlait en off là quand tu compares les noms que tu voyais en 2006, en 2010, où tu voyais des stars dans quasiment chaque nation. Tu te dis parfois là.
L'Allemagne ça a quand même été souvent. C'est pour ça que Polo la connaît mieux que nous, mais il est là pour en parler. Mais l'Allemagne ça a quand même été souvent justement une force collective. Justement une force collective.
Avec
des talents,
ça a toujours été leur ADN.
Voilà, sublimé par des buteurs, par des talentueux, mais quand même.
Ils sont nés comme ça. C'est quand on parle, on peut même remonter au début du XXe siècle. Ils se sont construits comme ça. Les Allemands se voyaient comme une armée. Et en 1900, et ça, je parle de ceux qui ont écrit sur le football allemand de l'époque. Hein. Ils se voyaient pas comme des gens doués individuellement et qui compensaient par un collectif qu'on devait y arriver comme ça. Il y a un très bel exemple. C'est évidemment malheureusement un très mauvais exemple ce qui s'est passé en 1936 avec à la 1934. Mais je vais y arriver en 1938. La Coupe du Monde où on a fusionné les Autrichiens très talentueux avec des Allemands qui étaient des soldats. Et ça n'a pas du tout fonctionné. Évidemment, c'est une période très particulière. Mais les Allemands se sont toujours vus, en fait, comme des gens qui, collectivement, devaient réussir. Ce qui, d'ailleurs, on leur a enlevé du talent, ce qui est complètement faux quand on voit les nombres de joueurs qui ont joué pour la sélection allemande. Mais ça, c'est le problème de leur histoire. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, moi, je comprends les débats, le monde change, le monde se soucie, mais personne n'est capable de m'expliquer pourquoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé en 2018. D'ailleurs, quand on revoit les matchs, les Allemands devaient passer tranquillement. Ils ont balayé toutes les équipes. Et puis, c'est juste une question de réalisme devant le but qui fait qu'ils ne sont pas passés au stade supérieur. Ensuite, là, maintenant, on a une Coupe du Monde à je ne sais pas combien. Donc
48.
Ouais, 48.
Bolo, on va continuer d'en parler, évidemment, mais il faut faire une courte pause. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. On continue de parler, évidemment, de l'Allemagne qui est attendue après deux énormes déceptions en 2018 et en 2022. Et puis on dira un petit mot également de la Suisse que tu suis et qui a fait match nul. La Suisse qui est opposée à l'Australie, deux nations qualifiées pour le mondial. A tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h36, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. L'afterfoot continue avec Fabrice Hawkins, avec Maxime Chano, avec Kevin Diaz. Et nous sommes avec Polo Breitner. On parlait de l'Allemagne, on va parler de la Nati dans quelques instants. Mais on va continuer quand même juste un petit peu sur l'Allemagne. Mais c'est vrai que Polo, par rapport à tout ce que tu nous as dit, par rapport aux déceptions passées et par rapport au choix aussi de Nagelsmann, moi j'ai l'impression que l'Allemagne arrive aux États-Unis, enfin est déjà arrivée, avec des problèmes qui auraient pu être largement évités. Et le gardien de but, alors on est d'accord qu'évidemment Bowman c'est pas un top gardien, mais de se mettre dans un bourbier pareil, c'est complètement lunaire, c'est pas pro en fait, tout simplement.
Bah alors par rapport à l'histoire de la Nationalmannschaft, ça c'est de la rigolade. Hein.
Oui, mais avant il y avait des très bons gardiens et ils se tiraient la bourre. Là c'est pas du tout le cas.
Ils se tiraient la bourre. Là c'est un peu le problème générationnel. Même s'il y a des jeunes qui débarquent là, on va découvrir l'année prochaine en Ligue des Champions le jeune Zeymann qui revient à Stuttgart. Mais là-dessus moi je me pose pas trop. On a vu Hobby cette saison au Bayern, donc tout ça moi là, ne me pose pas trop de questions. Moi ce qui m'intéresse si tu veux c'est l'engagement, les leaders, le qui est vraiment celui qui parle dans le vestiaire, comment ça pousse, etc. Et je le sens pas vraiment une hiérarchie habituelle qu'on pouvait voir et très clairement voir, puisque les Allemands s'appelaient toujours les Leitwolf, hein, les chefs de meute, on sait ce que ça veut dire. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude en équipe de France. Quand il y avait trop de leaders en équipe d'Allemagne, et ben ils se bouffaient entre eux, et puis c'est celui qui avait la plus grande gueule qui restait sur le terrain et les autres ils sortaient. C'était ça le football allemand. Aujourd'hui, moi, les leaders, je les vois pas, je les sens pas. Kai Havertz, c'est un joueur extraordinaire on nous l'a vendu comme un balak. Est-ce qu'il est bien positionné au poste de Mirev? J'en sais rien. Wirtz et Moussiala sont des joueurs qui auraient évolué avec une équipe d'Allemagne il y a 20 ou 30 ans. On n'aurait entendu qu'eux, là, on les entend pas du tout. Et les autres, en fait, les autres auraient été des soldats, des larbins pour des joueurs comme Wirtz et Moussiala. Mais le problème, moi, si tu veux, je comprends plus cette Allemagne du foot aujourd'hui. Je la vois, je regarde. Ok, ils gagnent 3-0, 4-0, très bien, tout le monde s'en fiche. Ils perdent, tout le monde s'en fiche. Et c'est très différent de ce que j'avais vécu lorsque j'avais les cheveux sur la tête, quoi. Donc c'est, j'essaie de comprendre ça. J'ai beaucoup de mal avec mes grilles de lecture sur ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'Italie n'est plus à Coupe du Monde, pourquoi le Brésil, un pays de 250, plus de 250 millions d'habitants, n'arrive pas à sortir 11 joueurs très compétitifs, etc. Donc,
Il y a quand même quelques données, Polo, que tu connais aussi avec ce qui se passe aujourd'hui dans le foot business et dans le foot moderne. Aujourd'hui, que ce soit peut-être à moindre mesure les Allemands, mais les Allemands aussi, les Brésiliens notamment, surtout, qui sont lancés à 16, 17 ans, des fois 15 ans, qui arrivent dans un football business où ils sont abreuvés d'argent, de fame, de réseaux sociaux et de tout ça. Et aujourd'hui, tu en parlais avec la génération des Allemands qui est mentalement beaucoup moins forte de ce que ça a été. Mais quand tu vois que Wirtz, je crois que Wirtz à 20 ans, il avait joué autant de matchs que Balak à 24, c'est une stat qui est ouais, à peu près celle-ci. Et ben forcément, il s'était déjà fait les croisés, il avait déjà connu des choses incroyables, mais peut-être qu'à 26, il est cramé. Et donc aujourd'hui, le football business amène aussi ce genre de nation à souffrir aussi de football.
Oui, et puis faut remettre aussi dans
le discours. Mais j'entends, mais moi j'ai pas vu encore une fois un joueur de 23 ans prendre sa retraite parce que de toute façon il a son compte en banque et est rempli.
Non, mais il y a aussi un autre facteur à prendre en considération, messieurs, c'est que la concurrence s'est armée aussi, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qu'on voyait pas il y a quelques années. Je pense à la Norvège, je pense au Maroc, je pense aux États-Unis, et en fait le niveau des concurrents à ces grandes nations, à l'Allemagne, à la France, au Brésil, et ben ça se restreint.
Mais est-ce que c'est pas les grandes nations qui se sont justement appauvries?
Non, je pense pas. Ça paraîtrait pas logique. Je veux dire, les grandes nations continuent à produire des
quand
talents.
Quand tu vois Brésil, par exemple, moi je fais le calcul. Le Brésil de 2026, il fait pas rêver, alors qu'ils ont eu des Brésils exceptionnels par le passé, par exemple.
Oui, mais c'est aussi la manière dont tu formes tes joueurs aussi, parce que Kevin l'a très justement dit, le football moderne demande aussi des joueurs qui doivent très vite être transférés en Europe. Donc c'est vrai que les Brésiliens, ils ont tendance à former des joueurs différents, non pas pour pouvoir jouer en Brésil, mais directement pour être performants en Europe.
Voire même pour être vendus. C'est aussi ça. Joueurs, il faut qu'ils soient vendus.
Donc tu crées des profils qui doivent être en mesure de pouvoir s'exporter, donc ça ceci explique aussi cela. Mais il y a une réalité, c'est que quand tu jouais le Luxembourg ou le Canada et quand tu étais le Brésil ou l'Allemagne, bah t'en mettais 5, 6, 7, 8 et puis maintenant ça se restreint. Tu le vois bien avec l'Irak, tu le vois bien avec l'Espagne, Irak, où est-ce que ça fait 1-1, on le voit avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, toutes les nations profitent un petit peu justement de la formation européenne et même sud-américaine, ils récupèrent des joueurs et derrière tu vois des nations qui tiennent la route. Et je serais pas surpris de voir pendant cette Coupe du Monde des équipes comme la Colombie performer, des équipes comme l'Équateur performer, même si j'ai aucun...
Oui, enfin, Colombie a une histoire quand même dans le foot.
Non, mais de là, alors, quand je dis performer, en tout cas, je ne serais pas étonné de voir une équipe sud-américaine aller un peu plus loin que d'habitude, sans parler évidemment de l'Argentine
ou du Brésil. Vers le bas,
et je pense qu'en règle générale, c'est plutôt les petites équipes qui ont évolué plutôt que les grandes équipes qui ont baissé de niveau.
Je suis d'accord.
Polo, juste...
Pour
terminer, juste un petit mot sur la Nati qui a fait match nul, un but partout face à l'Australie. On l'a dit, hein, les deux sont qualifiés. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match?
Ben pareil, un petit peu que l'Allemagne, quand la Suisse joue en première mi-temps notamment, ben, ils balayent l'Australie, et puis l'Australie est bien revenue en seconde période. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Manzambi, maintenant, apparemment, fait partie du 11 titulaire. En tout cas, il l'a été lors des deux matchs de préparation, parce qu'il y a aussi eu le 4-1 contre la Jordanie. Donc, est-ce que c'est une équipe polyvalente, hein, capable de jouer défense à 3, défense à 4, Manzambi revient dans le jeu, etc. Donc, moi, c'est un vrai beau 11 de départ, avec quelques joueurs qui peuvent en sortie de banc faire des choses intéressante. Donc je pense pas que la Suisse encore une fois gagnera la Coupe du Monde, même si même si les au pays on aimerait bien aller chercher une demi-finale, mais en tout cas va falloir la sortir cette équipe.
un but partout, on rappelle, entre la Suisse et l'Australie. Et vous pouvez retrouver les podcasts sur ces deux nations, notamment sur YouTube et sur les 48, évidemment, qui participent à ce mondial. Merci beaucoup, Polo. Belle soirée à toi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va partir en Belgique. Et oui, la Belgique qui a évidemment raté sa dernière Coupe du Monde, sortie dès la phase de groupe, et qui a maintenant un Français à sa tête, Rudy Garcia. Alors, où peut aller la Belgique lors de ce mondial 2026? On en parle avec Loïc Wouss tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h46, vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. Encore quelques minutes pour parler des différentes nations qui vont disputer le mondial qui débutera ce jeudi. Vous le savez évidemment sur RMC, à suivre toute la compétition et les matchs qui vont débuter dès jeudi 11 juin. La Belgique, vous le savez, est la Belgique qui est coachée par Rudy Garcia depuis janvier 2025. Et on accueille Loïc Wouss, spécialiste du football belge. Bonsoir Loïc.
Bonsoir.
Salut Loïc.
Merci de l'invitation.
Salut Loïc, merci beaucoup d'être avec nous. On voulait parler de la Belgique. On le rappelle qu'en 2022, il y avait eu une élimination dès la phase de groupe et qu'il y a eu un match ce week-end face à la Tunisie avec une large victoire 5-0. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Belgique? Est-ce qu'elle est prête pour ce mondial? On a vu notamment que De Bruyne était en forme face à la Tunisie. On a vu l'entrée en jeu également de Lukaku. Courtois, bien évidemment, il est redevenu le gardien de but depuis qu'il a arrêté d'être fâché avec le précédent sélectionneur. Est-ce que la Belgique va aux États-Unis, au Mexique, au Canada avec de l'ambition?
Alors oui, elle y va avec de l'ambition, tout en sachant évidemment qu'il faut rester mesuré par rapport à la réalité du terrain. La Belgique ne sera pas une favorite à la Coupe du Monde, très clairement, mais la Belgique aura de l'ambition, oui. L'équipe tourne bien, l'ambiance est bonne. Et bon, il y a vraiment la place pour faire en tout cas un beau tournoi. On verra bien.
Un beau tournoi, c'est quoi? C'est quoi l'objectif fixé à Rudy Garcia?
Ben, je pense que Rudy Garcia le dit très très bien lui-même et sa communication est d'ailleurs très bonne. Il faut distinguer vraiment, je pense, l'objectif de l'ambition. L'ambition, elle est, comme il le dit lui-même, nos limites pour tout le monde, je pense, c'est d'aller au bout. L'objectif matériel, elle est un peu plus raisonnable. Je pense que si jamais la Belgique termine première de poule, de ce qu'on a vu, il y a visiblement un 16e et un 8e qui sont jouables. Si derrière en quart c'est l'Espagne, si effectivement tout est bien logique et que ça va comme ça, je pense que si la Belgique termine première de poule et perd en quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Espagne, il n'y aura certainement pas à rougir.
On rappelle le groupe Égypte, Nouvelle-Zélande et Iran. Fabrice, une question?
Oui, c'est on voit qu'ils sont vraiment dans une très très bonne dynamique avec notamment 13 victoires de rang. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est sur qui peut s'appuyer vraiment Rudy Garcia, notamment, on sait qu'il est excellent, Jérémy Doku. Est-ce que c'est le seul qui peut faire la différence dans cette équipe?
Le gros facteur X, Jérémy Doku, je pense que depuis qu'il a signé à Manchester City, il a vraiment pris une classe différente, notamment dans sa concrétisation des derniers gestes. Il est beaucoup plus concret, beaucoup plus efficace. Dans le dernier geste. Après, je pense que c'est pas non plus la seule clé qui peut décapsuler les matchs. Quand on voit un De Bruyne, vous en parliez très bien, il est encore à très très bon niveau. Mathias Fernandez Pardo, je pense, peut avoir sa carte à jouer, même s'il va commencer, à mon avis, quasiment aucun match de la peau d'un titulaire en tant que remplaçant. Il peut apporter quelque chose. Et puis derrière, bah voilà, oui, c'est un bon mix avec quelques joueurs qui étaient encore là sur les précédents tournois, Romelu Lukaku qui peut toujours, même si on le sait qu'il a parfois cette difficulté devant le but, mais il est capable aussi de mettre un doublé sur un match et de le faire basculer.
Il a joué une soixantaine de minutes cette saison avec Naples seulement.
Ouais, c'est ça. Il a pratiquement pas joué ici. Le match en Croatie où il marque à la toute fin du match lui fait beaucoup de bien. Après, on le voit, il est pas encore à son niveau, il est pas encore dans la construction du jeu, il y a encore vraiment matière à progresser. Maintenant, il a marqué en Croatie, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien. Le fait qu'il marque, c'était quand même son 90e but, son 90e but, pardon, en équipe nationale. Et bon, voilà, ça reste un joueur qui, même avec un peu moins de forme, est capable, ça reste un buteur hors pair et quelqu'un qui a le sens du but. Donc c'est toujours un joueur qui, même s'il n'est pas titulaire, même s'il ne joue pas tous les matchs, est encore capable de faire la différence.
Kevin, quand je vois le 11 et notamment le 11 de départ face à la Tunisie, il y a quand même vachement de talent. Alors effectivement, la génération dorée, elle n'existe plus, mais tu peux être que ambitieux. Tu as un des meilleurs gardiens du monde. Bon, il revient de blessure, on est d'accord. Tu as quand même aussi derrière du talent, milieu de terrain, Onana Tillmans, Kevin De Bruyne qui revient bien, parce que évidemment le facteur X aussi dans cette équipe, ça sera Kevin De Bruyne qui doit tout organiser. Doku, il vient de nous en parler, Loïc, Trossard, De Ketelaere devant, non?
Oui, après, tu viens de me dire quand même Trossard, De Ketelaere.
Bah non, mais ça doit faire au moins quart de finale, ça.
Ah, je suis pas sûr.
Mmh. Bah après, non, c'est pas mal, les gars, quand même, non?
Non, je dis pas que c'est mauvais, mais en fait, tout dépend comment tu vois les choses. Il y a encore pas si longtemps que ça, ils avaient une équipe exceptionnelle à tous les postes.
Oui, mais ils gagnaient pas.
Des top joueurs. Mais c'est ce que je veux te dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ont un petit peu moins, peut-être qu'ils ont un petit peu moins de talent, mais que ça va créer justement une équipe. Ouais. Que contrairement à ce qui se passait il y a encore quelques années où chacun regardait l'autre en se disant il va faire l'effort ou il va faire la différence, là peut-être qu'ils vont plus se battre tous ensemble parce qu'ils savent que si tu regardes le niveau global, il y a quand même moins de talent encore une fois que ce qu'ils ont pu connaître.
Oui, mais tu me demandais est-ce qu'il y a beaucoup de talent? Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus de talent en Belgique que dans certaines autres sélections qui sont outsiders. Aujourd'hui, la Belgique, on les voit différemment parce que on connaît les joueurs de près chez nous, parce que voilà, c'est à côté, parce que c'est Rudy Garcia. Mais demain, Maxime parlait de la Colombie ou de l'Équateur, je suis pas sûr que ce soit en dessous de la Belgique.
Mais la défense centrale titulaire, par exemple, c'est quoi?
Je pense que c'est la grosse carence des Belges, c'est leur défense. Hein. C'est vrai que quand tu compares avec ce qu'ils ont eu dans le passé, Compagnie, Vertonghen, Vermaelen,
il avait 278 ans.
Non, mais aujourd'hui, excuse-moi, quand je vois Nathan Ngoy, Nathan Mekele, alors qu'il est un bon joueur pour la Jupiler League en Belgique.
En 8e, tu veux prendre un gros tout de suite et ça peut être très compliqué.
En fait, la question, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le point faible des Belges, ça serait pas justement cette défense?
Après, l'attaque, c'est pas fou non plus.
C'est pas fou, mais t'as quand même un joueur qui joue à Arsenal, t'as Doku qui joue à City. Enfin, je veux dire, t'as des joueurs qui connaissent la Champions. Là, Ngoy qui joue à Lille. Excuse-moi, c'est je sais pas si tu peux aller jusqu'en finale avec.
Non,
avec
mais quart de finale, c'est le minimum, moi je trouve.
Il faut faire un 16e, hein. Il y a un 8e, il y a un 16e avant.
Pourquoi c'est le minimum?
Non, mais je veux dire, quart de finale, je trouverais pas que ça serait incroyable. C'est-à-dire que pour moi, ils ont quand même des choses.
Pour moi, s'ils vont en quart de finale, c'est qu'il y a des joueurs qui ont surperformé.
Pour moi, quart de finale, c'est un gros résultat. C'est une très belle Coupe du Monde.
Moi, je mettrais pas, par exemple, si la Belgique arrive à être quart de finale, c'est une.
C'est normal. C'est la normalité.
C'est pas une surperformance, à mes yeux.
On parle pas de surperformance, mais pour toi, est-ce que c'est la normalité?
Ils doivent le faire. Ils ont les armes pour le faire.
Pour toi, c'est l'objectif.
Oui, surtout que De Bruyne, il revient bien. Donc, moi, je trouve qu'en fait.
De Bruyne, les gars, De Bruyne. De Bruyne, on l'a tous adoré. C'est une légende du foot, si tu veux. Mais De Bruyne, il a plus ses jambes.
Mais sauf que De Bruyne, on l'a vu à des compétitions, il est arrivé complètement rôti. Là, c'est pas le cas. Donc, s'il n'est pas rôti, ça change tout.
Quand tu regardes un petit peu leurs résultats, je crois qu'ils ont frappé les États-Unis 5-2. Là, ils viennent de gagner contre la Tunisie 5-0. Il me semble qu'ils ont gagné contre la Croatie aussi, peut-être. 1 ou 2-0,
ouais,
quelque chose comme ça.
Les
résultats parlent pour eux. Après, c'est vrai qu'on a tellement été habitués les dernières années on a parlé de la génération dorée, que quand tu regardes intrinsèquement et individuellement, mais c'est vrai que défensivement, quand tu vois un petit peu les noms, et que tu compares avec ce que les Belges ont connu, tu peux te poser des questions. Mais ouais, quart de finale, ça sera un très très bon tournoi pour les Belges, Karine. Je suis d'accord avec Kevin.
Ouais, très très beau tournoi.
Ouais, individuellement, on l'a dit, par rapport aux équipes qui
vont faire un défilé au stade Louis-Baudouin s'ils gagnent.
Je sais pas s'ils se satisferont d'un quart de finale, mais les autres équipes derrière, ça pousse, on l'a dit, tu vois, des équipes
donc
comme
le Canada.
Donc
quart de finale, pour toi, c'est un peu trop haut, là, je m'emballe visiblement, Loïc.
Non, moi, je pense que quart de finale, ça, c'est juste. Quand on regarde le groupe, je pense que le 9 sur 9, il doit être dans la poche claire et nette.
Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Donc pour toi, la Belgique est meilleure que l'Égypte.
Là, je pense que ça doit être un 9 sur 9 claire et nette. Je pense qu'un autre résultat qu'un 9 sur 9, c'est une mauvaise performance.
Les garçons sont pas d'accord, visiblement, que ça soit Kevin ou Fabrice. Pour vous, c'est quoi? C'est l'Égypte, effectivement, qui va être touche-touche avec la Belgique?
Moi, je pense que l'Égypte peut sortir de ce groupe numéro 1.
Ouais, je pense aussi.
C'est l'adversaire le plus relevé, de toute façon. Là, on est d'accord.
L'adversaire le plus relevé, ça, c'est clair. Oui.
Non, mais tout peut arriver, mais ils peuvent faire 9 sur 9. Mais je veux dire, s'ils font 7 sur 9, c'est quand même un bon résultat aussi, tu vois. s'il y a un match nul contre l'Égypte par exemple, je trouverais que quand même qu'ils ont fait une belle phase de groupe.
C'est le match d'entrée d'ailleurs, hein, le gros match, c'est Belgique et le 15 juin.
Le premier match, c'est souvent le plus gros match.
Ben, c'est bien, on va tous rentrer dans la compétition tout de suite.
Alors moi, ça te met dedans direct.
Par contre, ça me fait un peu peur pour la deuxième semaine et la troisième, tu vois.
C'est-à-dire qu'après, on a Belgique, Iran, donc tout de suite là, on baisse, et Nouvelle-Zélande, Belgique. Loïc, le fait que les tensions soient aplanies en Belgique, est-ce que c'est parce qu'il y a des joueurs qui sont partis? Est-ce que c'est parce que la Belgique n'a jamais rien gagné, donc à un moment, ils se sont tous redescendus sur terre? Ou est-ce que c'est aussi grâce à Rudy Garcia?
Je pense qu'il y a une grande partie qui est grâce à Rudy Garcia. Il y a beaucoup de mauvaises tensions qui sont apparues quand Domenico Tedesco était en place. Sa gestion, ses justifications aussi n'étaient pas comprises par la majorité du groupe. Et puis il y avait cette frustration aussi de se dire que c'était entre guillemets la dernière de la génération dorée. Enfin, que quoi, quand on regarde encore l'équipe actuelle, il y a quand même encore pas mal de joueurs de cette fameuse génération
oui,
dorée.
Oui, parce que Courtois et De Bruyne étaient déjà dorés.
Courtois, De Bruyne, Lukaku, Meunier, Witzel. Donc il y en a encore quelques-uns.
C'est Eden Hazard qui est plus là surtout.
Dembélé.
Eden n'est plus là, lui, c'est évidemment la grosse différence. Derrière, je pense qu'il y a quand même encore de la qualité. Moi, j'ai l'impression quand même que la Belgique est une meilleure équipe que vous disiez par rapport à l'Équateur, etc. C'est une très bonne équipe à l'Équateur. Très bonne équipe l'Équateur, mais j'ai l'impression, voilà, moi je mettrais la Belgique aux alentours de, oui, la 8-10e place. Plus ou moins un quart de finale, ce qui me paraîtrait en fait assez logique.
Déshonorant s'ils font 8e par exemple, ça te surprendrait pas?
En fait, ça dépend un peu le scénario. Si jamais finalement ils sont 2e de groupe parce qu'ils font 7 sur 9 comme l'Égypte et que l'Égypte est première et qu'en 8e de finale ils jouent une grosse nation qui sont sortis, c'est pas spécialement déshonorant. Si jamais ils sortent en 8e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Donc ça dépend aussi un petit peu le scénario de comment ça se passe. Maintenant, je pense que si jamais ils jouent une grosse nation en 8e en quart, les nations qu'on appelle vraiment favoris du tournoi, et qu'ils sortent là, je pense que non, il y a rien de déshonorant, mais ça dépend un peu comment ça se déroule, quoi.
Est-ce qu'il existe encore les problèmes entre les Wallons et les Flamands au sein du groupe, entre les joueurs issus de la Flandre et de la Wallonie? On sait qu'il y avait des problèmes un petit peu de langue aussi. Est-ce que là, tu le sens? Est-ce qu'on en a parlé? Alors évidemment, ça dépend aussi des résultats, mais on sait que...
Non, vraiment, de ce qui nous revient, pas du tout. Ça a pu être le cas par le passé, quand on avait, par exemple, un sélectionneur francophone ou un sélectionneur néerlandophone, l'autre partie du pays n'était pas toujours spécialement d'accord et était très critique. Là, ici, je pense quand même que dans le nord du pays, Rudy Garcia, qui est en francophone, est scruté peut-être d'un peu plus près que dans le sud. Mais non, il n'y a pas de tension en tout cas dans le groupe, et tous les joueurs le disent, et même les joueurs qui sont là depuis longtemps, depuis 10-15 ans, disent on a rarement vécu dans un groupe où l'ambiance est aussi bonne de manière générale. Donc je pense que tous les signaux sont au vert pour que la Belgique fasse la meilleure Coupe du Monde par rapport à ses moyens, et j'ai l'impression que la meilleure Coupe du Monde par rapport à ses moyens, on tombe plus ou moins vers un quart de finale.
Merci beaucoup Loïc Vous d'avoir été avec nous. Merci, c'est l'équipe du football belge. Messieurs, je vous rappelle l'information de la soirée. C'est Christian Eriksen qui a eu un malaise lors du match entre le Danemark et l'Ukraine. Le match a été évidemment arrêté. Et du côté de la sélection danoise, on dit que Eriksen va bien. Voilà les informations qui ont été communiquées. Donc on pense évidemment à lui qui avait déjà eu un malaise lors du dernier Euro. C'était il y a 4 ans. Et qu'il avait dû donc depuis se faire reposer un pacemaker. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés. Merci évidemment à Théo et à Timothée qui étaient aux manettes de l'émission, et belle nuit à tous sur RMC.
RMC, l'after foot.